Chapitre 40. Chasseur de Trolloque. Alors que les dernières gouttes de l'averse matinale tombaient encore du feuillage des pommiers, un pinson violet sautillait sur une branche où bourgeonnaient des fruits qui ne seraient pas récoltés cette année. Déjà haut dans le ciel, le soleil caché derrière d'épais nuages fournissait une lumière grisâtre. Assis en tailleur sur le sol, Perrine éprouvait distraitement la résistance de la corde de son arc. Même si elle était enduite de cire, celle-ci avait tendance à se détendre quand on l'exposait à l'humidité. La violence de l'orage invoqué par Vérine pour couvrir leur fuite, la nuit de l'évasion, avait surpris jusqu'à la Aes Sedai. Depuis, il y en avait eu 3 autres en 6 jours. 6 jours, vraiment? Oui, ça devait être ça. Ou pas. Depuis cette nuit-là, Perrine n'avait plus vraiment réfléchi, se laissant porter par les événements et réagissant au jour le jour. Le côté non coupant du tranchant de sa hache appuyait désagréablement contre son flanc, mais il s'en apercevait à peine. Des monticules de terre couverts de végétation marquaient la présence des générations d'Aïbara enterrées dans le verger. Parmi les sobres plaques de bois sculptées, les plus anciennes, craquelées et aux inscriptions pratiquement illisibles, remontaient à près de 300 ans. Aplanies par le temps, des tombes encore plus vieilles ne se distinguaient même plus de la terre alentour. Mais c'étaient les monticules détrempés par la pluie, parce que presque aucune végétation ne les protégeait, qui brisait le cœur de Perrine. Des générations d'Aïbara, oui, mais sûrement jamais 14 personnes en même temps. La tante Néhain reposait près de l'oncle Carline, inhumée longtemps avant elle, et leurs 2 enfants dormiraient à jamais à leur côté. La grand-tante Easlin, elle, gisait dans la rangée où on avait enterré l'oncle Eward, la tante Magd et leurs 3 enfants. La très longue rangée, où se trouvait aussi la dernière demeure du père et de la mère de Perrine. Et celle d'Adora, de Désel et du petit Paète. Une entière rangée de tombes à peine recouvertes d'herbe. Sans baisser les yeux sur son carquois, Perrine compta du bout d'un index le nombre de flèches qu'il contenait. Beaucoup trop avaient été endommagées, leur seule valeur restant la possibilité de récupérer de la pointe en acier. N'ayant pas le temps d'en fabriquer lui-même, le jeune homme devrait aller voir l'artisan de Champ des Mondes. Buel d'Autry produisait des projectiles de très bonne qualité, peut-être encore meilleurs que ceux de Tam. Entendant bruire des brindilles dans son dos, Perrine eut mal air.
« Que se passe-t-il, Danil ? »
demanda-t-il sans se retourner. Surpris, le nouveau venu eut un moment d'hésitation, puis Perrine l'entendit très clairement reprendre son souffle.
« Perrine ? »
dit Danil Lewin.
« La dame est ici. »
Parmi les compagnons de Perrine, personne n'était habitué à ces étranges dons. Par exemple, identifier une personne avant de l'avoir vue ou dans l'obscurité. Se fichant de ce que les autres trouvaient bizarre ou non, l'ancien apprenti forgeron n'essayait plus de se cacher. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, il trouva que Danil avait beaucoup minci ces derniers temps. Les fermiers ne pouvaient pas nourrir un nombre illimité de bouches. Du coup, contraints à s'en remettre à la chasse, les gens de 2 rivières passaient sans cesse du festin à la famine. Avec une nette prédominance de la famine, hélas.
« La dame, Danil ?»«
Oui, dame Feil. Et le seigneur Luc. Tous 2 reviennent de Champ des Mondes. »
Perrine se leva souplement, puis partit à grandes enjambées, forçant Danil à presser le pas pour le suivre. En chemin, le jeune homme aux yeux jaunes réussit à ne pas regarder la maison, ou plutôt la carcasse calcinée qui se dressait en lieu et place du foyer où il avait grandi. En revanche, il sonda les arbres les plus proches de la ferme, vérifiant que ses sentinelles étaient à leur poste. À proximité du bois de l'eau, les chênes, les pruches, les frênes et les lauriers étaient tous de très bonne taille. Leur feuillage luxuriant dissimulait parfaitement les gamins vêtus de couleurs passe-partout. Du coup, malgré sa vue exceptionnelle, Perrine lui-même avait du mal à les repérer. Dès qu'il aurait le temps, il faudrait qu'il passe un bon savon à ses gosses. Leur mission était de donner l'alarme si quelqu'un approchait, y compris Feil et ce fichu seigneur Luc. Dressé dans un bosquet où Perrine, enfant, jouait à l'explorateur perdu dans une immensité sauvage, le camp rudimentaire était composé de couvertures drapées sur des branches afin d'offrir un abri et d'autres couvertures disposées sur le sol, non loin des feux de cuisson. Ici aussi, les branches dégoulinaient. La majorité des jeunes hommes présents, 50, portaient la barbe, peut-être par souci d'imiter Perrine ou parce qu'ils trouvaient inconfortable de se raser à l'eau froide. Tous étaient de bons chasseurs. Les mauvais, ils les avaient depuis longtemps renvoyés dans leur pénate. Mais ils n'avaient pas l'habitude de dormir plus d'une nuit ou 2 à la belle étoile, ni de faire ce que Perrine leur demandait, encore moins en un sens. Pour l'heure, ils entouraient Feil et Luc, bouche bée, et 4 ou 5 seulement avaient un arc à la main. Les autres armes reposaient près des couvertures, le plus souvent avec les carquois correspondants. Perché sur un grand étalon noir, Luc était une véritable incarnation de l'arrogance d'un oblio ne daignant même pas regarder les roturiers qui se pressaient autour de lui. L'odeur de ce triste individu dominait celle des autres, une sorte de discrimination olfactive, comme s'il n'avait rien de commun avec la plèbe, même pas l'appartenance à l'humanité. Dans les bruissements coutumiers de sa jupe-culotte, Fayle vint à la rencontre de Perrine, qui capta, en plus de son odeur personnelle, un léger parfum de savon aux herbes aromatiques.
« Maître Luhan a dit que nous aurions une chance de te trouver ici. »
Alors qu'il avait l'intention de lui demander ce qu'elle fichait là, Perrine enlaça sa compagne et lui souffla à l'oreille.
« Je suis content de te voir. Tu m'as manqué. »
Fayle s'écarta juste ce qu'il fallait pour lever les yeux sur son amoureux.
« Tu as l'air fatigué. »
Perrine ignora cette remarque. Pour être fatigué, il fallait en avoir le temps, et ce n'était pas son cas.
« Tu les as tous ramenés à Champ des Mondes ?»«
Ils sont à l'auberge, oui. »
Fayle sourit.
« Maître Alvéré a déniché une vieille hallebarde, et il clame partout que les fils devront lui passer sur le corps avant de pouvoir récupérer les prisonniers. Tout le monde est au village, Perrine. Vérine et Alana, plus les champions. Tous s'efforcent bien sûr de passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et Loyal, lui, il fait sensation. Encore plus que Bane et Chiad. »
Le sourire s'effaça.
« Loyal m'a demandé de te transmettre un message. Alana s'est éclipsée 2 fois sans prévenir. Selon notre ami Ogier, Yvonne a paru surpris de voir qu'elle était partie. Je suis censé n'en parler qu'à toi. Qu'est-ce que ça signifie ?»«
Rien, peut-être. Sauf que je ne peux pas me fier à Alana. Vérine m'avait mis en garde. Mais qui me prouve qu'elle est plus digne de confiance que sa collègue ?»« Bane et Chiad sont à Champ des Mondes, dis-tu ? Donc Luc sait qui elles sont. »
Perrine tourna la tête vers le seigneur. Quelques jeunes hommes s'étaient approchés pour lui poser des questions, et il leur répondait avec un sourire condescendant.
« Les Aiel sont venus avec nous, »
révéla Fayle.
« Elles patrouillent autour de ton camp. Désolé, mais je doute qu'elles aient une très haute opinion de tes sentinelles. Perrine, pourquoi voudrais-tu que Luc ne sache rien au sujet des Aiel ?»«
J'ai parlé à des gens dont la ferme a été incendiée. »
Même si le seigneur était trop loin pour entendre, Perrine baissa la voix.
« Si on compte l'exploitation de Flan Lewin, Luc est passé dans 5 de ses domaines la veille de l'attaque ou le jour même.
Perrine, je sais que c'est un imbécile bouffi d'orgueil sur certains points. Alors qu'il est originaire du Mourandi, il prétend avoir un droit héréditaire sur le trône d'une des terres frontalières. Mais de là à le soupçonner d'être un suppôt de ténèbres, à Champ des Mondes, il a donné de très bons conseils. Et quand j'ai dit que tout le monde y était, c'est vraiment tout le monde.
La jeune femme secoua la tête.
Des centaines de réfugiés sont venus du nord et du sud. De toutes les directions, en fait. Avec leurs bêtes et une partie de leurs possessions. Tous parlent des avertissements de Perrine Yeux Jaunes. Ton village est prêt à se défendre si nécessaire. Et Luc a été partout à la fois ces derniers jours.
Perrine, comment ?
S'étrangla le jeune homme. Il tenta aussitôt un changement de sujet.
Venu du sud, dit-il. Mais je ne suis pas allé plus loin au sud qu'ici. Et je n'ai parlé à aucun fermier au-delà d'une demi-lieue du village.
Taquine, Fayle tira sur la barbe de son compagnon.
« Les nouvelles se répandent vite, mon grand général. Je pense que la moitié de ces gens espèrent que tu les fédéreras, levant avec eux une armée, afin de renvoyer les Trollocs dans la flétrissure. On parlera de toi à 2 rivières au cours des 1000 ans à venir. Perrine Yeux Jaunes, le chasseur de Trollocs. »«
Par la lumière !»
marmonna le jeune homme. Chasseur de Trollocs. Il avait fait si peu jusque-là pour mériter ce surnom. 2 jours après la libération des prisonniers, et 1 après que Vérine et Thomas étaient partis de leur côté, Perrine et 15 de ses hommes avaient découvert les vestiges encore fumants d'une ferme. Après avoir enterré les dépouilles trouvées dans les cendres, suivre les pillards s'était révélé assez facile grâce au talent d'éclaireur de Gaul et au flair du général. Car pour lui, la puanteur des monstres n'avait pas eu le temps de se dissiper. Certains des jeunes gars s'étaient montrés hésitants dès qu'ils avaient compris que la chasse aux Trollocs était vraiment ouverte. S'il avait fallu avancer pendant longtemps, ces garçons auraient probablement filé à la moindre occasion. Mais la piste conduisait à un taillis, à environ 1 lieue de la ferme incendiée. Comme de juste, les Trollocs n'avaient pas posté de sentinelles. Sans Myrdral pour les encadrer, ils cédaient immanquablement à la paresse. Et les hommes de 2 rivières savaient approcher d'un objectif en silence. 22 Trollocs avaient péri, presque tous criblés de flèches dans leur couverture puante et avant même d'avoir pu dégainer une arme. Danil, Ban et les autres avaient manifesté l'intention de célébrer leur victoire, jusqu'à ce qu'ils voient le contenu du grand chaudron encore suspendu au-dessus du feu. Beaucoup de « héros » étaient partis se cacher pour vomir, et presque tous avaient pleuré sans retenue. Perrine s'était chargée de creuser la tombe. Une seule, car il n'y avait plus moyen de distinguer les uns des autres les fragments de corps, et encore moins de dire quoi appartenait à qui. Une chance, car si ça avait été possible, il aurait eu du mal à le supporter, si dur et si glacé qu'il soit devenu. Le même jour, mais plus tard, personne n'avait hésité lorsque le général avait humé une autre piste nauséabonde. Quelques garçons avaient quand même marmonné au sujet de la bizarrerie du chef, mais tout s'était arrangé quand Gaul avait repéré des empreintes de sabots et de bottes, d'une pointure bien trop grande pour qu'elles appartiennent à des humains. Dans un autre taillis, près du bois de l'eau, les vengeurs étaient tombés sur 41 trolloques accompagnés par un blafard. Ici, il y avait des sentinelles, mais elles ronflaient à leur poste. Cela dit, être plus vigilante ne leur avait pas servi à grand-chose. Se glissant entre les arbres et les buissons comme une ombre, Gaul avait promptement éliminé ses gardes. Le groupe de Perrine comptait 30 hommes ce soir-là. Ceux qui n'avaient pas vu le chaudron en ayant entendu parler, tous avaient décoché leurs flèches en poussant des cris de guerre au moins aussi sauvages que ceux des monstres. Le blafard, tout de noir vêtu, était mort le dernier, plus hérissé de projectiles qu'une pelote d'épingle. Quand il s'était enfin immobilisé, personne n'avait eu le cœur assez bien accroché pour récupérer des flèches sur sa carcasse. Plus tard dans la soirée, le deuxième orage avait éclaté, un vrai déluge, avec des éclairs zébrant le ciel et des roulements de tonnerre. Depuis, Perrine n'avait plus senti de piste et toutes les traces avaient été effacées du sol. Du coup, l'occupation principale du général et de ses troupes était d'éviter les patrouilles de Cap Blanche, bien plus fréquentes ces derniers temps. Selon les fermiers qu'avait rencontrés Perrine, les fils semblaient surtout vouloir retrouver leurs prisonniers et capturer ceux qui les avaient fait évader. Quant aux trolloques, ils s'en fichaient comme d'une guigne. Quelques hommes s'étaient rassemblés autour de Luc. Avec sa haute taille, sa chevelure blond roux se voyait de loin au milieu d'un cercle de têtes plus sombres. Le seigneur tenait le crachoir et son public l'écoutait en acquiesçant.
« Voyons un peu ce qu'il raconte. »
maugréa Perrine. Sans trop de bousculade, les jeunes hommes de Deux-Rivières s'écartèrent pour laisser passer Dame Fail et leur chef. Sous leur regard fasciné, le seigneur en veste rouge brodée de fil d'or pérorait d'abondance.
« Mais si, le village est en sécurité, désormais. Beaucoup de gens se sont organisés pour le défendre. Quant à moi, j'avoue apprécier de pouvoir dormir sous un toit quand l'occasion se présente. Maîtresse Alvéré, la femme de l'aubergiste, est une excellente cuisinière. Son pain est un des meilleurs que j'ai jamais goûté. Du pain tout juste sorti du four et du beurre frais, que demander de plus ? Peut-être de s'installer confortablement dans la salle commune pour savourer une coupe de vin ou une chope de la délicieuse bière brune de Maître Alvéré.
Perrine, le seigneur Luc nous conseille d'aller à Champ-des-Mondes,
dit Kenley à Han, en frottant son nez rouge du dos d'une main crasseuse. Kenley n'était pas le seul à n'avoir pas pu se laver aussi souvent qu'il l'aurait voulu ces derniers temps, ni le seul à avoir attrapé un gros rhume. Luc sourit à Perrine comme il aurait souri à un chien pour l'encourager à faire le beau.
Le village est bien défendu, mais il n'y a jamais trop de costauds dans une milice.
Nous chassons les trolloques,
répondit Perrine.
Toutes les fermes ne sont pas abandonnées, et à chaque bande de monstres massacrés, nous sauvons une exploitation et des gens, qui ont ainsi la possibilité d'aller se mettre en sécurité.
Will Alcyne éclata de rire. Avec une barbe de 6 jours et le nez comme un lampion, il n'avait plus grand-chose d'un séducteur.
Voilà des jours que nous n'avons plus senti un trolloque. Sois raisonnable, Perrine. Nous les avons peut-être tous tués.
Des murmures approbateurs montèrent de l'assistance.
« Je ne voudrais surtout pas semer la zizanie, »
dit Luc. Il écarta les mains, vibrante incarnation de l'innocence.
« Il n'est pas douteux que vous avez eu de grands succès, en plus de ceux dont nous avons entendu parler. Des centaines de trolloques ont dû tomber sous vos coups. Qui sait, vous les avez peut-être tous chassés du territoire. En tout cas, Champ-des-Mondes est disposé à vous accueillir comme des héros. Et c'est la même chose à Colline de la Garde. Y a-t-il ici des natifs de Promenade de Devenne ?»
Will hocha la tête. Luc lui tapa sur l'épaule avec une familiarité horriblement mal imitée.
« Accueilli comme un héros, mon garçon.
Tous ceux qui veulent partir sont libres de le faire, »
dit Perrine d'un ton neutre. D'un regard, Fail lui fit comprendre que ce n'était pas, selon elle, un comportement digne d'un général. Mais Perrine ne voulait forcer personne à le suivre, et il n'avait aucune intention d'être un chef.
« À mes yeux, »
dit-il,
« le travail n'est pas terminé. « Mais c'est à vous de choisir. »
Personne ne broncha, même si Will et quelques autres semblèrent bouillir intérieurement. Baissant la tête, la plupart des héros regardèrent le sol, et entreprirent de nettoyer les semelles de leurs bottes dans les feuilles mortes de l'année précédente.
« S'il ne vous reste plus de trolloques à pister, »
dit Luc d'un ton détaché,
« il serait peut-être temps de vous intéresser aux Fils de la Lumière. Ils ne sont pas ravis que des gens de Deux-Rivières aient choisi de se défendre seuls. Si j'ai bien compris, ils ont l'intention de pendre les insurgés qui ont libéré des prisonniers. »
Les héros échangèrent des regards inquiets. À cet instant, Gaul fendit la petite foule, Bane et Chiad sur les talons. En guise de fendre, les Aïels se contentèrent d'avancer, puisque les insurgés s'écartèrent promptement sur leur passage. Luc regarda Gaul sans aménité. Imperturbable, le guerrier ne baissa pas les yeux. Will, Danil et leurs compagnons semblaient ravis de voir les Aïels, car ils pensaient que des centaines d'autres se cachaient dans les taillis, les bosquets et les bois. Ils ne demandaient jamais pourquoi ces renforts ne se montraient pas, et Perrine évitait soigneusement le sujet. Si l'illusion d'avoir des alliés leur donnait du cœur au ventre, pourquoi les en priver ?
« Qu'as-tu trouvé ?»
demanda Perrine. Gaul était parti en patrouille la veille. Capable d'avancer aussi vite qu'un cavalier, plus vite dans les bois, il avait un œil d'aigle.
« Des trolloques !»
répondit Gaul, comme s'il annonçait avoir repéré un troupeau de moutons.
« Ils traversaient le bois de l'eau, qui porte bien son nom avec toute cette humidité. Et je pense qu'ils ont l'intention d'établir leur camp à la lisière de ce bois. Ils sont une trentaine. Et au sud, là où ils attaqueront sans doute cette nuit, il reste des fermes habitées. »
Il eut un sourire de prédateur.
« Ils ne m'ont pas vu et ne se méfieront pas. »
Chiad se pencha pour parler à l'oreille de Bane, si fort qu'on aurait pu l'entendre à 20 pas à la ronde.
« Pour un chien de pierre, il marche assez vite, et en faisant à peine plus de bruit qu'un taureau boiteux. »«
Alors, Will ?»
lança Perrine.
« Tu veux aller à Champ des Mondes ? Si tu te rases, tu trouveras peut-être une fille à embrasser pendant que les trolloques se rempliront l'estomac. »
Will s'empourpra jusqu'aux oreilles.
« Cette nuit, je serai là où tu seras, Aibara. Personne ne songe à rentrer s'il y a encore des trolloques dans le coin. »
ajouta Kenley. Perrine balaya du regard ses héros, qui hochèrent tous la tête.
« Et toi, Seigneur Luc ? Nous serions fiers d'avoir un noble, quêteur du corps, qui plus est, à nos côtés. »
Luc eut un demi-sourire qui n'adoucit en rien son regard hautain.
« Désolé, mais on a encore besoin de moi à Champ des Mondes pour superviser les défenses. Si les trolloques attaquaient, plus d'une petite trentaine, bien sûr, ma mission est de protéger les villageois. Idem si les capes blanches venaient en force. Dame Fail, si tu veux bien. »
Luc tendit une main pour aider la jeune femme à monter en selle. Fail secoua la tête.
« Seigneur Luc, je vais rester avec Perrine. »
« Quel dommage. »
murmura le quêteur, comme s'il pensait que le mauvais goût des femmes n'avait pas de limite. Tirant sur ses gantelets ornés de loups brodés, il bougea très légèrement sur sa selle pour mettre en mouvement son étalon.
« Bonne chance à toi, Seigneur Yeux Jaunes, et à tous les autres aussi. »
S'inclinant à l'intention de Fail, Luc fit volter son étalon, puis le lança au galop si brusquement que plusieurs hommes durent sauter sur le côté pour ne pas être renversés. À la façon dont Fail le regarda, Perrine s'attendit à un sacré sermon sur la courtoisie dès qu'il serait seul. Quand il n'entendait plus le bruit des sabots du cheval noir, il se tourna vers Gaul.
« Pouvons-nous aller à la rencontre des trolloques ? Et leur tendre une embuscade avant qu'ils aient atteint l'endroit où ils veulent camper ?»«
C'est faisable, si nous partons tout de suite. Ils avancent en colonne sans trop se presser. Un blafard les accompagne. Cela dit, il serait plus simple de les surprendre dans leur sommeil. »
Plus simple pour les jeunes gens de Deux-Rivières, bien entendu. Gaul n'était pas du genre à redouter une bataille rangée. S'il ne montait de lui aucun relent de peur, il en allait autrement de bien des jeunes gens. Pourtant, pas un ne suggéra qu'un affrontement à la loyale, avec un myrdral pour pimenter la sauce, pouvait être un mauvais plan. Dès que Perrine en eut donné l'ordre, ses compagnons éteignirent les feux, dispersèrent les cendres, rassemblèrent leurs chiches d'affaires et enfourchèrent leurs montures si mal assorties. Avec les sentinelles, Perrine nota de ne pas oublier d'avoir avec elle une conversation musclée, le groupe comptait près de 70 individus, largement assez pour tomber sur 30 trolloques et les réduire en bouillie. Ban Al-Sin et Danil dirigeaient chacun un demi-détachement, le meilleur moyen d'étouffer les querelles de pouvoir. Billy Aldai, Kenley et quelques autres tenaient lieu de sous-officiers, supervisant des escouades de 10 hommes. Will comptait parmi ses sous-chefs. Quand il ne pensait pas aux filles, c'était un type bien en général. Alors que les Aïels partaient en éclaireur, Fail fit chevaucher Hirondelle à côté de Trotter.
« Tu ne lui fais aucune confiance !»
marmonna-t-elle.
« Comme s'il était un suppôt des ténèbres.
Je me fie à toi, à mon arc et à ma hache, »
répondit Perrine. Fail parut à la fois flatté et attristé. Pourtant, ce n'était que la stricte vérité. Gaol guida la colonne vers le sud pendant 2 heures, puis il s'engagea dans le bois de l'eau où des chênes, des pins et des lauriers dominaient toute une variété d'arbres, d'arbustes et de buissons. Voisinant avec des frênes de bonne taille à la cime ronde, des saules noirs se serraient contre des palmiers en forme de cône. Au pied de tous les troncs, la broussaille et les lianes s'entrelaçaient pour former comme une corolle. Sur les branches, des milliers d'écureuils pépiaient, tandis que des grives, des pinsons et des étourneaux voltaient de feuillage en feuillage. Perrine capta une odeur de cerf, de lièvre et de renard. Dans ce bois sillonné de petits cours d'eau, les étangs et les mares abondaient. Le plus souvent ombragés, ces étendues d'eau parfois à ciel ouvert, dans des clairières, faisaient entre 10 et près de 50 pas de large. Sur le sol détrempé par la série d'orages, les sabots des chevaux produisaient d'étranges bruits de succion. Après environ une demi-lieue de marche, Gaol s'arrêta entre une grande mare entourée de saules et un ruisselet d'un pas de large. S'il continuait dans la même direction, les Trollocs passeraient par là. Pour s'en assurer, les 3 aïels partirent en éclaireur. Ils revinrent très vite et confirmèrent que l'ennemi approchait. Confiant la garde des chevaux à Feil et à 12 hommes, Perrine fit déployer en arc de cercle ses 60 compagnons, afin de former une muraille à laquelle les Trollocs ne pourraient pas éviter de se heurter. Après s'être assuré que tous les hommes étaient bien dissimulés et savaient ce qu'ils avaient à faire, le général se plaça au centre du piège, près d'un chêne au tronc de près de 6 pieds de diamètre. Une fois sûr que sa hache ne se coincerait pas dans la boucle de sa ceinture, il encocha une flèche dans son arc et attendit. Une légère brise venant lui ébouriffer les cheveux, il pourrait sentir les Trollocs bien longtemps avant d'être en mesure de les voir. S'il avait bien calculé son coup, ils arriveraient juste en face de lui. Les minutes passèrent, puis bientôt 1 heure. Que fichaient donc les créatures des ténèbres? Si Perrine restait trop longtemps dans cette atmosphère humide, il serait bon pour changer la corde de son arc. Les oiseaux disparurent quelques instants avant que les écureuils se taisent. Comprenant que le moment fatidique était arrivé, Perrine huma l'air à plein poumon. Bizarrement, il ne capta rien. La brise soufflant dans la bonne direction, il aurait dû sentir les Trollocs en même temps que les oiseaux et les écureuils. Un tourbillon d'air charria jusqu'aux narines de Perrine une puanteur qu'il connaissait trop bien.
« Ils sont derrière nous !»
cria-t-il en se retournant.
« Tous les hommes avec moi ! 2 rivières à moi !»
Derrière le piège, il y avait les chevaux. Et Feil. Des cris sauvages montèrent de toutes parts. Un Trolloc à cornes de bélier apparut face à Perrine et leva aussitôt son arc long. Perrine arma aussitôt le sien, lâcha sa flèche au jugé et en sortit immédiatement une autre de son carquois. Touché entre les 2 yeux, le Trolloc s'écroula sans qu'il y ait besoin de doubler le tir. Mais il avait eu le temps de tirer et sa flèche, de la taille d'une petite lance, percuta Perrine au flanc à la vitesse d'un cheval au galop. Le souffle coupé, le jeune homme se plia en 2, lâchant son arc et sa flèche de rechange. La douleur, déjà atroce, empirait encore dès qu'il tentait de respirer. 2 autres monstres, une gueule de loup dessinant un rictus sous leur corne de chèvre, sautèrent par-dessus le cadavre de leur frère d'armes, sans le voir ni s'en soucier. Bien plus grand que Perrine et 2 fois plus large, ils chargeaient, leur cimeterre fendant l'air. Le jeune homme se releva, serra les dents, cassa la hampe de la flèche plantée dans sa chair et tira sa hache de sa ceinture. Puis il chargea en hurlant à la mort. En hurlant, oui, pour exprimer la rage qui recouvrait d'un voile rouge ses yeux jaunes. Face aux 2 monstres géants aux pièces d'armure hérissées de pics sur les épaules et aux coudes, il mania sa hache comme un bûcheron qui aurait voulu couper net un arbre avec chaque coup. Pour Adora, pour des ailes.
« Pour ma mère ! Crevez tous ! Pour ma mère !»
S'avisant soudain qu'il s'acharnait sur 2 dépouilles déjà hachées menues, Perrine se força à cesser de frapper. Tendant l'oreille, il constata qu'il y avait beaucoup moins de cris. Y avait-il d'autres survivants que lui ?«
À moi ! Jean de 2 rivières ! À moi ! 2 rivières ! »
cria quelqu'un.
« 2 rivières !»
répondit une autre voix. « 2 ? Seulement 2 ?»«
Feil ! Au nom de la lumière ! Feil !»
Une silhouette noire apparut entre les arbres, annonçant la venue d'un Myrdraal bien avant que Perrine ait pu distinguer clairement le sans-yeux en cuirasse sombre, sa cape couleur d'encre n'ondulant pas d'un pouce alors qu'il courait à la vitesse du vent. En approchant, le tueur noir ralentit, certain de sa victoire sur un adversaire blessé. Sur son visage blême, l'absence de globe oculaire était tout aussi terrifiante que s'il avait eu des yeux de feu liquide.
« Feil !»
répéta le Myrdraal d'une voix qui grinçait comme un morceau de cuir brûlé qu'on broie dans sa main.
ta Fail était délicieuse.
Hurlant de rage, Perrine bondit sur le blafard, dont l'épée noire dévia sans peine son premier coup de hache. Le deuxième et le troisième ne furent pas plus efficaces. Son visage soudain tendu sous l'effet de la concentration, le Myrdral se déplaçait avec la souplesse d'une vipère et la rapidité de la foudre. Pour l'instant, Perrine parvenait à le maintenir sur la défensive. Mais ça ne durerait pas. Son flanc blessé pissait le sang et le brûlait comme le feu d'une forge. Condamnée à faiblir, Perrine finirait avec une épée noire dans le cœur dès que ses dernières forces l'auraient abandonné. Quand il glissa dans la boue, basculant en arrière, le blafard arma son bras pour porter le coup de grâce. Jaillissant de nulle part, une lame lui décolla presque la tête des épaules. Un geyser de sang noir jaillit du coude de la créature, qui continua pourtant à frapper, refusant de mourir pour de bon et de cesser de tuer. Alors qu'il s'écartait de la trajectoire furieuse du monstre moribond, Perrine leva les yeux sur l'homme qui essuyait calmement sa lame avec une poignée de feuilles. Yvonne. Sa cape caméléon pendant sans un pli, comme s'il était en train de boire une infusion.
« Alana m'a envoyé à ta recherche, »
dit le champion.
« J'ai eu du mal, parce que tu sais rudement bien brouiller les pistes. Mais 70 chevaux laissent forcément des traces. »
Son infusion finie, le champion semblait à présent s'apprêter à allumer sa pipe devant une cheminée.
« Les Trollocs n'étaient pas liés à ce... à cette vermine. »
Yvonne désigna le blafard qui était enfin tombé mais continuait à zébrer l'air avec sa lame.
« C'est bien dommage, non ? Mais si tu parviens à rassembler tes hommes... Les Trollocs hésiteront peut-être à vous affronter, sans un Myrdral pour les y forcer. Ils sont une centaine, au fait. Un peu moins, si on enlève ceux que tu as tués.
Son épée au poing, le seul détail signalant une situation hors du commun, le champion entreprit de sonder les alentours en quête d'un danger. Un instant, Perrine en resta muet. Alana voulait le voir, et elle avait envoyé Yvonne, juste à temps pour lui sauver la vie. Perrine s'arracha son hébétude et cria.
Deux rivières, à moi ! Pour l'amour de la lumière, à moi ! Deux rivières !
Cette fois, il ne se tut pas avant que des silhouettes familières apparaissent entre les arbres. Des silhouettes titubantes au visage maculé de sang. Certains hommes se soutenaient l'un l'autre, et beaucoup avaient perdu leurs armes. Les aïels se montrèrent aussi, apparemment indemnes. N'était la légère claudication de Gaul.
Les choses ne se sont pas passées comme prévu,
dit simplement le guerrier. Il aurait parlé sur le même ton de la pluie et du beau temps. Fail apparut entre les arbres avec les chevaux, non, la moitié, mais Hirondelle et Trotteur étaient du nombre, et 9 des 12 hommes que Perrine avait laissés avec elle. La jeune femme arborait une coupure sur la joue, mais elle était vivante, et cela seul comptait. Perrine voulut la serrer contre lui, mais elle le repoussa en marmonnant qu'elle n'avait pas envie de se blesser contre le moignon de hampe d'une flèche. Elle écarta cependant délicatement la veste du jeune homme pour voir à quel endroit il était touché exactement. Perrine regarda les hommes qui l'entouraient. Il n'en arrivait plus de nouveau, pourtant, bien des visages manquaient à l'appel. Kenley Ahan, Billy Aldai, Teven Marwyn. Perrine se força à nommer les absents et à les compter. 27. 27 jeunes hommes perdus.
« Vous avez ramené tous les blessés. Il ne reste personne en arrière. »
Perrine sentit que les mains de Fail tremblaient sur son flanc. Elle venait de découvrir la plaie et semblait à la fois inquiète et folle de rage. Elle avait raison dans les deux occurrences. Il n'aurait jamais dû l'entraîner là-dedans.
« Nous n'avons laissé que les morts, »
répondit Ban Alcine d'une voix aussi blanche que son visage. Les yeux plissés, Will semblait regarder quelque chose dans le lointain.
« J'ai vu Kenley, »
dit-il.
« Sa tête était dans la fourche d'un chêne, mais son corps reposait au pied du tronc. Je l'ai vu. » Son rhume ne l'embêtera plus désormais.
Le jeune homme éternua et sembla surpris d'être encore un être humain en manifestation normale. Perrine soupira et le regretta aussitôt, car la douleur le força à serrer les dents. Un foulard de soie verte à la main, Fail tentait de sortir de son pantalon le pan de sa chemise. Il la repoussa, ignorant son regard furibond. Ce n'était pas le moment de soigner une plaie.
« Les blessés sur les chevaux !»
ordonna Perrine quand il put desserrer les dents.
« Yvonne, vont-ils nous attaquer ? Yvonne ?»
Le champion apparut, tenant son cheval gris par la bride.
« Peut-être, et peut-être pas. »
répondit-il quand Perrine eut répété sa question.
« Livrés à eux-mêmes, les Trollocs préfèrent les proies faciles. Sans un Myrdral pour les aiguillonner, ils attaqueront une ferme plutôt que des gens capables de les cribler de flèches. Il faut que tous les hommes encore un peu valides brandissent un arc avec une flèche encochée, même s'ils ne sont plus en état de tirer sur la corde. Les monstres décideront peut-être que le jeu n'en vaut pas la chandelle. »
Perrine frissonna. Si les trolloques attaquaient, ils s'amuseraient comme des danseurs le jour de la fête du soleil. Dans le groupe, seuls Yvonne et les Aiel étaient en état de se battre. Avec Feil, dont les yeux noirs brillaient de fureur. Ils devaient la conduire en sécurité. Le champion ne proposa pas son destrier à un blessé, ce qui sembla parfaitement logique à Perrine. L'animal n'aurait sûrement pas accepté un cavalier inconnu, et un cheval de guerre, monté par son maître, serait une arme dévastatrice si les trolloques revenaient à la charge. Perrine tenta d'aider Feil à enfourcher Hirondelle, mais elle l'en empêcha.
« Tu as dit les blessés sur les chevaux. Tu te souviens ?»
Poussant le raisonnement jusqu'au bout, Feil insista pour que le général blessé chevauche trotteur. Très mécontent, Perrine redouta en outre que ses hommes protestent après le désastre dont il était responsable. Mais aucun ne réagit. Il y avait juste assez de chevaux pour les hommes incapables de marcher ou qui n'auraient pas tenu très longtemps. Finissant par reconnaître qu'il appartenait à la seconde catégorie, Perrine monta péniblement en selle. Serrant les dents, il parvint à se tenir bien droit alors qu'une bonne moitié de ses hommes avaient dû se coucher sur l'encolure de leur cheval. Les jeunes gens encore en état de marcher et une partie de ceux qui chevauchaient s'accrochèrent à leur arc, comme s'il s'agissait d'une planche de salut. Perrine brandit aussi le sien et Feil récupéra celui d'un blessé grave. Même si elle aurait probablement été incapable d'armer un arc de deux rivières, seules les apparences comptaient. Pour s'en tirer vivant, ils allaient devoir s'en remettre à une illusion. Comme Yvonne, tendue comme une lanière de fouet prête à claquer, les aïels semblaient en pleine forme, à croire qu'ils revenaient d'une promenade. Leurs lances glissaient dans la bandoulière de l'étui de leur arc, ils avançaient, prêts à décocher une flèche au premier signe de danger. Le reste du groupe, Perrine y compris, n'était plus qu'un détachement en déroute. Plus le moindre rapport avec les jeunes héros qu'il avait conduits dans cet enfer. Général de pacotille gonflé de sa propre importance et absurdement confiant. Peut-être, mais parfois, l'illusion fonctionnait aussi bien que la réalité. Pendant un moment, la brise charria l'odeur infâme des trolloques, la preuve qu'ils suivaient les rescapés. Mais il n'y eut pas d'attaque. Puis la puanteur se dissipa, indiquant que les monstres avaient renoncé, vaincus par un leurre. Feil marchait à côté de Trotteur. Tenant son arc d'une main, elle avait posé l'autre sur la jambe de Perrine, comme si elle entendait l'empêcher de tomber. Souriant de temps en temps pour encourager le jeune homme, elle ne parvenait pourtant pas à cacher son inquiétude. Afin de la convaincre qu'il allait bien, Perrine lui rendit ses sourires. 27 morts dont les noms résonnaient en boucle dans sa tête. Colly Garen, Jared Aider, Dael Altaron, Ren Chandin. 27 garçons de deux rivières morts à cause de sa stupidité. 27. Ayant emprunté la route la plus directe pour sortir du bois de l'eau, la petite colonne émergea à l'air libre au milieu de l'après-midi. À quelle heure exactement? Avec un ciel si plombé, c'était impossible à dire. Des pâturages où poussaient quelques arbres s'étendaient devant les survivants. Dans le lointain, Perrine distingua quelques fermes dont les cheminées ne crachaient pas la moindre volute de fumée. Si ces exploitations n'avaient pas été abandonnées, il y aurait eu quelque chose en train de cuire dans quelques cheminées. La colonne de fumée la plus proche se trouvait à plus d'une lieue à l'est.
« Nous devrions passer la nuit dans une ferme, »
dit Yvonne.
« Un toit nous protégera s'il pleut encore, et nous pourrons faire du feu. Sans compter la nourriture, l'eau et les pansements que nous trouverons sûrement. »
Perrine acquiesça sans discuter. À l'évidence, le champion était bien plus compétent que lui. Même le vieux Billy Congar, avec son cerveau rongé par la bière, aurait fait un meilleur chef que lui. Du coup, il laissa Trotteur emboîter le pas au cheval gris du champion. Un peu moins d'une demi-lieue plus loin, Perrine capta de lointains échos de musique. Une joyeuse mélodie jouée par des violons et des flûtes. Pensant qu'il avait des hallucinations auditives, il comprit que non, en voyant, un peu plus tard, que ses compagnons échangeaient des regards incrédules, puis des sourires soulagés. La musique était synonyme de présence humaine, et de joie, à entendre le rythme endiablé de la mélodie. Des gens pouvaient encore avoir des choses à fêter dans cette vallée de larmes ? Cette simple idée incita les survivants de Deux-Rivières à avancer un peu plus vite.